Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de NineNarTree. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre « La guerre des monnaies, la Chine et le nouvel ordre mondial » est un essai de Hongbin Song, publié initialement en Chine en 2007 sous le titre « Currency Wars », puis traduit en français. Le livre propose une lecture très polémique de deux siècles de finances internationales, depuis la montée des grandes maisons bancaires européennes jusqu'aux crises contemporaines et au rôle du dollar. Son objectif est de montrer que le contrôle de la création monétaire, du crédit et des banques centrales constituerait une source de pouvoir politique supérieure aux institutions électives. Song organise son récit autour de la famille Rothschild, de la Banque d'Angleterre, de la Réserve fédérale américaine et des rivalités entre puissances. Il interprète ces éléments comme les composantes de stratégies coordonnées menées par une oligarchie financière transnationale. Cette thèse explique sa forte résonance dans les débats chinois sur la souveraineté économique. Toutefois, plusieurs de ces affirmations relèvent du registre conspirationniste et doivent être confrontées aux travaux historiques et économiques établis. Le livre se lit donc moins comme une histoire académique que comme un réquisitoire géopolitique contre la domination financière occidentale. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, le contrôle monétaire, présenté comme une forme décisive de souveraineté. Le principe directeur de la guerre des monnaies est que la monnaie ne constitue pas un simple outil technique destiné aux échanges. Pour Hongbin Song, le droit de créer la monnaie, de distribuer le crédit et de fixer les conditions de financement détermine la capacité effective de gouverner. Il met ainsi en opposition les institutions politiques visibles, telles que les parlements et les gouvernements, et un pouvoir financier qu'il juge plus discret mais plus déterminant. Cette grille permet de comprendre pourquoi le livre accorde autant de place aux banques centrales, à la dette publique et aux mécanismes de crédit. Lorsqu'un État dépend de prêteurs ou de marchés pour se financer, Song estime que sa marge de décision se réduit. Cette intuition renvoie à une question réelle de l'économie politique, l'autonomie monétaire influence les choix budgétaires, les taux de change, le coût de la dette et la résistance aux chocs extérieurs. Mais le livre franchit souvent une étape supplémentaire en attribuant cette influence à une coordination intentionnelle et durable de groupes financiers. Une lecture critique doit donc distinguer le problème solide de la dépendance financière des affirmations beaucoup moins démontrées sur une direction unifiée de la finance mondiale. Cette distinction est essentielle pour tirer profit du sujet sans adopter automatiquement les conclusions d'auteur. Deuxièmement, la Fed et les banques centrales au centre du récit de pouvoir. Song fait de la Réserve fédérale américaine un objet central de son argumentation. Il décrit la Fed comme une institution qui aurait échappé au contrôle démocratique afin de servir des intérêts financiers privés et internationaux. Cette présentation s'inscrit dans une tradition de critique de la banque centrale, où la création monétaire et les relations entre banques, États et détenteurs de dettes sont perçus comme opaques. Le sujet mérite attention, car les banques centrales disposent effectivement de responsabilités majeures. Elles conduisent la politique monétaire, influencent les conditions de crédit, gèrent ou protègent la stabilité du système financier et interviennent parfois lors de crises. Leur indépendance vis-à-vis du pouvoir exécutif soulève donc des débats légitimes de responsabilité démocratique. Cependant, le portrait proposé dans le livre simplifie fortement le statut de la Fed et la pluralité des contraintes qui pèsent sur elle, notamment son cadre légal, son système de gouvernance, ses objectifs publics et son contrôle institutionnel. La thèse selon laquelle elle serait la marionnette directe de la finance internationale ne correspond pas au consensus de la recherche historique. La valeur analytique du livre réside ici dans les questions qu'il force à poser sur la transparence monétaire, non dans la validation de ses accusations globales. Troisièmement, Rothschild et récit historique entre symboles financiers et généralisation conspirationniste, la dynastie Rothschild sert de point de départ et de symbole au récit de Song. Son importance historique comme grande famille bancaire européenne est réelle. Ses membres ont participé au financement de gouvernements et de projets au cours du 19e siècle. Le livre transforme toutefois cette présence historique en indice d'une influence continue, cachée et déterminante sur les événements internationaux. Il mobilise notamment des récits célèbres liés aux guerres européennes, aux emprunts publics et aux grandes crises, afin de soutenir l'idée que les financiers orienteraient les décisions des États à leur avantage. Cette méthode donne au texte une forte cohérence narrative, car elle relie des épisodes très éloignés sous une même logique de domination. Elle présente aussi une faiblesse majeure, une famille, une banque ou un réseau économique peut exercer une influence considérable sans pour autant constituer le centre explicatif unique des conflits, des révolutions et des politiques publiques. Les historiens examinent les archives, les intérêts divergents, les institutions et les circonstances nationales plutôt que de déduire une causalité générale de la richesse ou de la proximité avec le pouvoir. la prudence est particulièrement nécessaire face aux récits de cabales bancaires qui peuvent recycler des clichés anciens. Le lecteur gagne à retenir la question de la concentration financière, tout en rejetant les extrapolations non étayées. Quatrièmement, dette et guerres économiques comme instrument de domination. Le titre du livre désigne une guerre qui ne passe pas principalement par les armes, mais par les monnaies, la dette, les taux de change et les crises financières. Son soutien, que les déséquilibres monétaires peuvent affaiblir des pays, transférer des richesses et contraindre les gouvernements à accepter des choix contraires à leurs intérêts. Cette vision correspond à une réalité générale, les crises de change, les sorties de capitaux, les hausses de taux et les difficultés de refinancement peuvent déstabiliser profondément une économie. La crise mondiale de 2008, qui constitue un horizon important du livre, a rappelé le poids des banques, du crédit et de la dette dans la transmission des chocs. Le terme de guerre des monnaies possède aussi un sens plus classique en économie internationale. Lorsqu'un État cherche à obtenir un avantage commercial en laissant sa monnaie se déprécier ou en influençant son taux de change. Song élargit cependant cette notion jusqu'à y voir le plan d'une offensive globale conduite depuis Londres et Wall Street. Ce passage de rivalité institutionnelle, observable à une intention centralisée, est le principal point de contestation. Le livre est utile pour sensibiliser aux effets géopolitiques de la monnaie, mais il ne remplace pas une analyse fondée sur des données, des politiques nationales et des intérêts souvent contradictoires. En dernier lieu, une lecture nationaliste chinoise de l'ordre financier dominé par le dollar. Le succès de Currency Wars en Chine aide à comprendre sa fonction intellectuelle. Song ne se contente pas de critiquer les institutions financières occidentales. Il inscrit cette critique dans une réflexion sur la position de la Chine face au dollar, aux marchés occidentaux et aux règles héritées de l'ordre international de après-guerre. Son message central est que la puissance économique exige une capacité de protection monétaire et financière. Dans cette perspective, dépendre de la monnaie, du crédit ou des mécanismes de paiement contrôlés par des puissances rivales représente un risque stratégique. Cette préoccupation rejoint des débats contemporains sur la diversification des réserves, le rôle international du renminbi, la réduction de la dépendance au dollar et la construction de dispositifs financiers régionaux. Le livre se distingue ainsi par son déplacement du regard. Il raconte la finance mondiale depuis une inquiétude chinoise face à une architecture longtemps dominée par l'État unis et le Royaume-Uni. Néanmoins, il ne faut pas confondre cette perspective géopolitique avec une démonstration historique complète. Les intérêts chinois, américains, européens et privés ne forment pas des blocs parfaitement homogènes, et les évolutions monétaires résultent aussi de compromis, de règles et de crises imprévues. Le lecteur peut y trouver une introduction provocatrice aux enjeux de souveraineté, à condition de compléter sa lecture par des sources plus rigoureuses. En conclusion, la guerre des monnaies intéressera surtout les lecteurs qui veulent comprendre pourquoi les banques centrales, le dollar, la dette publique et les crises financières occupent une place centrale dans les rapports de puissance. Il peut également éclairer le contexte intellectuel de certains débats chinois sur la souveraineté financière et sur la vulnérabilité des États face aux marchés internationaux. Son bénéfice pratique est de rendre visible des questions souvent jugées abstraites qui émet la monnaie, qui finance la dette, comment une crise bancaire se propage et pourquoi le système monétaire peut devenir un enjeu géopolitique. Son bénéfice intellectuel dépend toutefois d'une lecture active et vérificatrice. Les thèses de Hongbing Song doivent être comparées à des travaux d'histoire financière, de politique monétaire et de relations internationales, car son interprétation repose fréquemment sur des liens de causalité étendus et sur une vision conspirationniste de la finance mondiale. Le livre se distingue des ouvrages économiques plus académiques par son ton accusateur, son ambition de relier deux siècles de faits historiques à une même structure de pouvoir et son point de vue chinois sur la domination monétaire occidentale. Cette combinaison explique à la fois son impact populaire et ses limites. Il convient donc aux lecteurs curieux des représentations politiques de la finance, plutôt qu'à ceux qui cherchent une synthèse consensuelle ou une histoire strictement documentée. Lu avec recul, il fournit un contrepoint révélateur au récit dominant sur l'ordre monétaire international. Si vous souhaitez soutenir Hongbing Song, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt !